Lettre 29e de la haine en temps de guerre. Mon cher Wormwood, maintenant qu'il apparaît comme certain que la ville où réside ton patient sera bombardée et que ses fonctions lui feront courir de graves dangers, il nous faut réfléchir à ce que nous allons faire. Faut-il jouer la carte de la peur, celle du courage, avec l'orgueil qui en découle, ou celle de la haine des Allemands? Je crains que cela ne serve à rien d'essayer d'en faire un brave. Notre département de recherche n'a pas encore trouvé, bien que la réussite soit attendue d'une heure à l'autre, le moyen de produire une seule vertu. C'est un sérieux handicap pour nous. Pour être à la fois très méchant et très utile, il faut qu'un homme ait au moins une vertu. Qu'aurait fait Attila sans son courage, ou Shylock sans son renoncement à l'égard de la chair? Cependant, comme nous ne pouvons fournir ces qualités nous-mêmes, et nous devons nous contenter d'utiliser celles dont l'ennemi a équipé les hommes, ce qui revient à lui laisser une prise sur certains de nos adeptes les plus sûrs. C'est un arrangement qui laisse à désirer, mais je veux croire qu'un jour nous trouverons mieux. Et pour ce qui est de la haine, nous pouvons en revanche nous en charger. L'attention à laquelle les nerfs d'un homme sont soumis en cas de bruit, de danger et de fatigue, le porte à toutes sortes de transports violents. Il ne nous reste qu'à bien canaliser cette disposition. Si sa conscience offre quelque résistance, embrouille-le. Fais-lui dire qu'il éprouve de la haine non pas à cause de son sort à lui, mais à cause de celui des femmes et des enfants, et que son devoir de chrétien consiste à pardonner à ses propres ennemis, et non à ceux des autres. En d'autres termes, fais-lui croire qu'il s'est suffisamment identifié aux femmes et aux enfants pour avoir de la haine à leur place, mais pas assez pour considérer leurs ennemis comme les siens et par conséquent les mettre au bénéfice de son pardon. Mais la haine et la peur combinées sont encore bien plus efficaces. La lâcheté est le seul parmi les vices à être purement désagréable. C'est horrible de l'envisager, horrible d'en être envahi et horrible de s'en souvenir. La haine, elle, a ses joies. C'est souvent le genre de compensation par lequel un homme cherche à neutraliser les effets pénibles de la peur. Plus il aura peur, plus il haïra. La haine calme aussi la honte. Si tu veux porter un grand coup à sa charité, commence donc par fléchir son courage. J'avoue qu'il s'agit là d'une affaire délicate. Nous avons rendu les hommes fiers de la plupart de leurs vices, à l'exception de la lâcheté. Chaque fois que nous croyons y parvenir, l'ennemi permet qu'il y ait une guerre, un tremblement de terre ou quelque autre calamité, et d'un seul coup, le courage devient si attrayant et si important, même aux yeux des hommes, qu'en un clin d'œil, tout notre bon travail est anéanti. Il subsiste ainsi toujours au moins un vice dont ils ont sincèrement honte. C'est pourquoi, en envahissant nos passions de lâcheté, nous courons un grand danger, celui de les voir arriver à une véritable connaissance de soi, et à un profond dégoût de soi, ce qui risque fort de les amener à la repentance et à une vraie humilité. C'est un fait que pendant la dernière guerre, des milliers de personnes, en prenant conscience de leur lâcheté, ont aussi découvert pour la première fois l'existence d'un monde moral. En temps de paix, nous réussissons à garder bien des gens dans une ignorance totale du bien et du mal. Mais quand ils sont en danger, cette question s'impose à eux avec une telle évidence que même nous, nous n'arrivons pas à les maintenir dans l'aveuglement. Nous sommes donc placés devant un cruel dilemme. Si nous favorisons la cause de la justice et de la charité, et nous faisons ouvertement le jeu de l'ennemi. Mais si nous encourageons les hommes à prendre l'attitude opposée, une telle conduite provoquera tôt ou tard, l'ennemi permet qu'il en soit ainsi, une guerre ou une révolution, et l'alternative inéluctable, lâcheté ou courage, éveillera des milliers d'hommes de leur torpeur morale. Ceci est peut-être même un des motifs qui ont poussé l'ennemi à créer un monde dangereux, un monde où les questions morales atteignent un point critique. Il sait aussi bien que toi que le courage n'est pas juste une vertu parmi les autres, mais la forme que prend chaque vertu lorsque, mise à l'épreuve, elle s'avère incontestablement authentique. Un homme dont la chasteté, l'honnêteté ou la bienveillance cèdent devant le danger ne sera chaste, honnête ou bienveillant que sous condition. Pilate s'est montré bienveillant jusqu'au moment où il a eu peur pour sa place. C'est pourquoi, en faisant de ton patient un lâche, il y a autant à perdre qu'à gagner. Il y a des chances qu'il en apprenne trop sur son propre compte. Il reste encore une autre possibilité, non pas de chloroformer son sentiment de honte, mais de l'accentuer jusqu'à ce qu'il soit au bord du désespoir. Ce serait là un grand triomphe pour nous. Cela prouverait qu'il n'a cru au pardon de l'ennemi pour ses autres fautes que parce qu'il n'avait pas senti toute la gravité du mal qu'il avait fait, mais que pour ce seul vice dont il a pu pleinement sonder l'infamie, il n'ose plus demander miséricorde, ni même croire qu'il pourrait l'obtenir. Cependant, je crains que tu ne l'aies laissé trop progresser à l'école de l'ennemi, et qu'il ne sache que trop bien que le désespoir est un péché plus grave que tous ceux qui l'ont provoqué. En ce qui concerne la technique de la tentation pour le démoraliser et l'affoler, il n'est pas besoin de longues explications. Ce qu'il faut surtout que tu saches, c'est que les précautions qui sont prises augmentent en général la peur. Cependant, les mesures de sécurité prescrites par les autorités, en devenant une espèce de routine, auront bientôt usé leur effet sur ton patient. Il te faudra donc maintenir dans son esprit, en même temps que la ferme intention de faire son devoir, une idée très vague de toutes les choses qu'il peut faire ou ne pas faire dans le cadre de son devoir, pour augmenter un peu sa sécurité personnelle. Détourne-le de la règle toute simple « je dois rester ici et faire ceci ou cela » et occupe son esprit par une série de conjectures du type suivant. Si A se produisait, bien que j'espère que ce ne sera pas le cas, je pourrais faire B, et en mettant les choses au pire, je pourrais toujours faire C. S'il ne les reconnaît pas comme tels, tu peux aussi éveiller en lui certaines superstitions. L'essentiel est de lui donner l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que l'ennemi et le courage que celui-ci dispense sur quoi il puisse compter en dernière ressource, de telle sorte que ce qui devait être consécration totale au devoir se trouve criblé d'inconscientes restrictions mentales. En lui trouvant toute une série d'expédients pour empêcher que le pire puisse lui arriver, tu pourras produire dans son inconscient la ferme résolution que le pire ne lui arrivera pas. Puis, au moment de la panique, fais-la passer dans ses nerfs et ses muscles, et l'acte fatal sera consommé avant même qu'il puisse se rendre compte de ce que tu es en train de manigancer. Car rappelle-toi que tout ce qui compte, c'est l'acte de lâcheté. La peur en soi n'est pas un péché, et bien qu'elle nous enchante, elle ne nous aide aucun secours. Ton oncle affectueux, Screwtape.